Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour, mesdames et messieurs. Notre première émission du mois de novembre, 4 novembre. Et je suis accompagné cette semaine de Francine Forget. Bonjour Francine.
Bonjour Yvan, je vois que vous êtes très heureux de mon retour. La lumière scintille. Oh oui. Non, ça c'est pas vous, c'est Mathieu.
C'est Mathieu qui est très heureux, qui manifeste. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors Francine, vous êtes allée faire un tour quelque part sur la planète, je pense.
Un tour quelque part sur la planète et je vous avoue que dans ma partie technologie, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue.
Vous allez nous partager une expérience?
Oui, oui, on va partager ça. Oui.
Je note. Ensuite, je regarde du côté de la température et je suis un petit peu soit heureux ou inquiet. Le 4 novembre, il est pas supposé faire beau comme ça.
C'est inquiétant, je vous dirais, quand on regarde ce qui se passe à Calgary, les centimètres de neige qu'on a eus
ouais.
Et que nous, peut-être, on aurait dû avoir.
Mm-hmm.
Et la température qu'on annonce pour le week-end.
Oui.
Et en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part.
Mon vélo est très heureux.
Oui, on est partagé, effectivement. Ben. On ne sait pas si on doit se réjouir ou pas. C'est agréable, comme vous dites, ça allait continuer votre vélo.
Oui.
Pour ceux qui ne sont pas équipés pour faire du vélo l'hiver.
Mm-hmm.
Mais en même temps, c'est inquiétant.
Oui, je suis partagé entre le fait d'utiliser ce qui nous tombe sur la tête, c'est-à-dire rien, le beau soleil, une température vraiment très agréable, et le fait de me dire « Oh, c'est peut-être pas une bonne chose, cette affaire-là ». Je lisais dans un article ce matin en me préparant qu'il y a des grands glaciers à travers le monde, dont sur le Kilimanjaro, qui sont en train de fondre à une vitesse grand V, au point de disparaître bientôt. Puis là, je me dis, oh, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Vraiment. Et puis là, il y a la COP, je sais pas quel numéro qui s'en vient.
25 ici.
25,
on vit la 27 présentement, mais on aura la 25 ici.
OK. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris
mais
ça.
Mais moi non plus, je ne comprends pas trop. Parce que oui, il y a quelque chose qui se passe, je crois, c'est en Égypte.
Oui.
C'est la
oui,
COP oui, c'est 27 ça. Et nous, on va accueillir la COP 25 en décembre.
D'accord. Back to the future.
Demandez-moi pas comment ça fonctionne, là.
Mais,
je ne sais pas.
Tout ça pour dire qu'il me semble qu'on parle beaucoup puis on ne fait pas grand-chose. Bon, fin de mon éditorial. Mathieu, comment ça va, vous, sur votre côté?
Je vais très bien.
Très bien. Vous
oui.
Vous êtes venu comment, vous, ce matin?
Ah, je partage, mais je suis beaucoup en vélo.
Oui, hein?
Mais aujourd'hui, je suis venu en scooter.
Ben oui.
Parce que j'utilise le cocktail de transport.
Oui, moi
c'est j'ai... C'est-à-dire à pied, en vélo et en scooter.
Moi, voilà. J'ai utilisé autobus, métro ce matin. Et je me suis levé un peu tard.
Non, c'est vrai?
Oui, j'ai même fait comme... Dans une chanson d'une comptine enfantine, j'ai mis mon linge à l'envers, ça. Hein?
Le roi d'Agobert? Est-ce
oui,
que vous voulez
ça.
Qu'on vous appelle comme ça ce matin?
C'est à votre goût. Je ne peux pas contrôler tout ça. Mais j'avais vraiment mon chandail à l'envers. Alors, ma journée est drôlement partie, mais ça va bien aller à partir de maintenant. Et Francine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine?
Je ne suis pas sûre que ça va aller si bien que ça. Vous parliez de...
Ah.
Ceux qui agissent.
Selon vous,
alors, il y en a un qui parle pas beaucoup, mais qui agit, parce que quand il parle, il y a des phrases très laconiques. Alors, je parle d'Elon Musk. Et évidemment, j'ai suivi la saga Twitter, qui est vraiment loin d'être terminée. Bon, on a parlé beaucoup, beaucoup de la certification pour laquelle on devra payer 8 $ par mois.
Ben oui.
Une certification qui existe déjà, d'ailleurs. Il n'y a rien de nouveau, là. Les gouvernements, les entreprises, les gens qui ont avantage à ne pas faire pirater leur compte et à dire « c'est vraiment moi
mm-hmm. »,
utilisent cette stratégie, cette offre.
Mais est-ce qu'ils ont à payer? Je ne sais pas, moi. Est-ce
oui,
qu'ils
oui.
ont à payer?
Oui, oui, ils ont à payer. Ça existe déjà, la certification.
Okay.
Bon, maintenant, ce qui se passe là avec Twitter, ben on en découvre à tous les jours. On a appris il y a quelques heures qu'il y a 50 % des employés qui vont être licenciés. Les licenciements commencent ce matin. Je viens de lire sur le Twitter de Bruno Guglielminetti que plusieurs grandes compagnies retirent leur, en tout cas suspendent leur publicité sur Twitter. Mm-hmm. Alors, on parle de Volkswagen, Audi, General Motors, etc., etc. Alors, on ne sait pas où ça va nous mener. Et on a commencé à dire à des gens qui voulaient se retirer, moi, je vais attendre encore, qui voulaient se retirer, ben, peut-être d'aller voir du côté de Mastodon. Mastodon, c'est un réseau qui existe depuis plusieurs années, là, depuis 2016. Mm-hmm. C'est un réseau qui avait été fondé, je ne me rappelle plus par son nom. Ah oui, c'est Eugène Coco, qui est un Russe, mais son entreprise est basée, il est basé en Allemagne. Et c'est un peu un Twitter. Mais lui, il a toujours préféré tenir ça petit. Il ne voulait pas que ça soit une grande communauté. Et vous pouvez, alors, si ça vous intéresse, mais moi, je trouve ça un petit peu compliqué. Là. Je suis allée voir, là, et j'attends, là, mais c'est Mastodon, M-A-S-T-O-D-O-N. Et si vous y allez, allez sur le site principal, n'allez pas sur les sous-titres, parce qu'ils sont très, très lents. Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir qu'est-ce qui se passe et qui s'inscrivent à ce moment-ci. Alors, ça a été un de mes faits, je dirais, de faits saillants de la semaine mm-hmm. et qui risque de continuer. J'ai aussi pris connaissance d'une série qui a été une série, en fait, qui a pris la forme d'un grand reportage par Philippe Mercure, qui a été publié, d'après ce que j'ai compris, dans la Presse Plus, mais moi, je l'ai lu sur lapresse.ca à mon retour, « Les visages de l'intoxication ». Alors, si vous n'avez pas lu cette série d'articles, je vous invite à le faire, à aller sur lapresse.ca, parce que c'est vraiment touchant et ça nous montre, en fait, ça nous montre les pièges dans lesquels on peut tomber sans être un junkie, tout simplement en étant malade, en ayant besoin de recourir à de la médication et au bout du compte, on devient addict à cause de cette médication qui nous a été prescrite légalement. C'était mes faits saillants. Je suis un peu sombre. Ce matin, d'habitude, je suis plus dans la joie.
Ben oui, vous êtes plus hop la vie.
Oui, hop la vie. Je trouve que c'est mieux, mais je sais que vous allez racheter tout ça.
Oui, je penserais. Moi, dans mes faits saillants, il y en a un que je regarde présentement.
Regardez un fait saillant?
Je regarde un fait saillant, oui. Il y a Félix Auger-Aliassime qui joue présentement contre... je ne me souviens pas du prénom de ce joueur, Tiafoe, un Américain. Francis Tiafoe.
Peut-être.
Et il mène 4 à 1 présentement. Il est sur son service et il mène 40 à 0 dans cette partie-là. Donc, il risque de mener 5 à 1 avant que j'aie fini de parler. Donc, ça va vraiment particulièrement très bien. Du côté du pont-tunnel, on a finalement vécu une semaine plutôt correcte. Contrairement à tous les cataclysmes qu'on nous préparait, je lisais aussi aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de place dans les transports en commun. Il y a beaucoup de place aussi dans les stationnements incitatifs. Donc, il y a de l'ajustement qui peut encore être fait pour les semaines à venir. C'était peut-être une semaine atypique parce qu'il y avait l'Halloween lundi, parce que souvent les écoles... ne sont pas c'est des journées pédagogiques le lendemain de l'Halloween. Peut-être. Mais force est d'admettre qu'on n'a pas eu les grands désastres qui étaient prévus la semaine dernière au moment où je vous parlais. C'est toujours 4 à 1 pour Félix Auger-Aliassime en passant. Et je suis allé à l'Université de Montréal voir une conférence. C'était un panel sur le poids des guerres et l'occupation des territoires. Et c'était vraiment intéressant. C'est la première fois que je retournais à l'Université de Montréal depuis, mon Dieu, je ne sais pas combien de temps. Ça faisait drôle, j'étais entouré de plein de jeunes. Mais en fait, il y avait des très jeunes, des jeunes qui étudient sûrement, et des très âgés comme moi. Fait que sur une centaine de personnes à peu près. Et deux choses qui m'ont vraiment frappé dans ce qui a été dit. D'abord, on tend à oublier les réfugiés des pays en guerre depuis longtemps, le Liban, la Syrie, l'Afghanistan, parce que c'est pas la guerre du jour, en guillemets. Et il y a quelqu'un qui a dit, on est dans la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre de la recherche de la vérité. Et je regarde ce qui arrive sur Twitter présentement, etc. Alors, des choses à penser pour cette semaine. C'est 5 à 1 du côté de Félix Auger-Aliassime. Je ne vous ferai pas le décompte au fur et à mesure que ça va se passer. Je vous donnerai les grands résultats. Ce qu'on regarde pour aujourd'hui, Francine?
Oui, alors vous avez parlé du pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Alors, même si vous êtes tanné d'en entendre parler, restez à l'écoute parce que Marcel Dugas va le faire, mais autrement. Notre chroniqueur Serge Lamelin va parler des services funéraires. Et comme j'ai annoncé d'emblée, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. J'ai donné un grand titre à ma chronique aujourd'hui, c'est l'après-pandémie. Alors, à l'école et dans la fonction publique. Alors, trois petits points, on en reparlera plus tard. Et vous, mon cher Yvan, vous allez accueillir...
Il y a Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. C'est une grosse journée pour eux autres parce que c'est leur soirée bénéfice ce soir. Alors, ça va être notre gros sujet de discussion. Et on part, j'ai un peu triché cette semaine dans mon choix de chansons parce qu'on fait des duos, parce qu'on est un duo de co-animation. Vous allez voir pourquoi j'ai triché.
Je ne te parlerai pas de cet homme inconnu qui sait presque tout de moi, qui du matin au soir me suit, me traque et me voit. Mon monstre est pire que ceux dans les histoires. Mais tu ne veux pas savoir, je ne te dirai pas que les honneurs et les éclats sont si peu pour moi, que parfois quand on m'aime, ça fait ni chaud ni froid. Je ne crois que ce que disent les miroirs. Mais je vais te faire danser, rien que te faire danser. Je vais t'aider à penser ce qui ne va pas. Je vais te faire danser, rien que te faire danser. Si t'arrives à plus penser, est-ce que tu m'aimeras? Je ne te parlerai pas de mon temps, ma carrière qui me file entre les doigts. Quand avant d'être mère, je ne faisais tout que pour moi. Puis rien n'est à moi-même quand je dors. Non, tu ne veux pas savoir, je ne te dirai pas que cette vie qui m'élève et m'achève à la fois est un choix que j'ai fait qui ne me laisse pas le choix. Mais qu'avoir su, j'aurais tout fait pareil. Je vais te faire danser, rien que te faire danser. Je vais t'aider. Toute la vie à dire de ne pas mentir, mais au fond, rien ne fait plus peur que la vérité. Dis-moi tout, mais surtout, n'ose jamais me dire les choses laides que l'on est, que j'aime mieux cacher. On passe toute la vie à dire de ne pas mentir, mais au fond, rien ne fait plus peur que la vérité. Dis-moi tout, mais surtout, n'ose jamais. Chose laide que l'on est, que j'aime mieux cacher. Je ne te dirai pas que lorsque la lumière brille ailleurs que sur moi, que ça pèse les pleurs et que se taisent les voix. C'est pourtant là que j'en voudrais encore. Je veux te faire danser et que te faire danser. Je veux t'aider à penser ce qui ne va pas. Tu m'aimeras.
Alors, j'ai un peu triché parce que c'est les sœurs Boulay, mais c'est un duo, c'est deux personnes quand même. C'est leur dernier. Ils viennent tout juste de lancer cet album-là et la chanson, c'était.
Je vais te faire danser.
Garde donc ça, toi. Et oui, c'est ça. Félix Auger-Aliassime a gagné le premier set en passant.
Bon, alors, je sais que vous êtes très préoccupé par cette question, mais il y a quand même d'autres manchettes dont je vais vous parler. La Presse Plus et le Journal de Montréal ont en commun deux manchettes ce matin. D'ailleurs, un même titre pour la première, « Rona change encore demain ».
Oui.
Et la deuxième porte sur la mise à jour économique de la ministre Chrystia Freeland. Rona, d'abord, qui change demain. Alors, on a appris que le quincaillier américain Lowe's a vendu ses activités canadiennes. Donc ça touche Rona, Renault Dépôt et Dick's Lumber. Moi, je ne connais pas Dick's Lumber. Je ne sais pas ce que c'est que cette firme. À une firme d'investissement new-yorkaise pour 400 millions de dollars américains. Alors, c'est un montant qui a été fondé sur le rendement. Je vous vois avec des points d'interrogation dans les yeux parce que effectivement, cette firme, Sycamore, a payé pas mal moins que Lowe's avait payé à l'époque pour acquérir. D'ailleurs, je vais préciser, je vais donner le montant parce que c'est un peu confondant. On parle de 2,3 milliards de dollars ou 3,2 milliards de dollars. Et c'est un peu particulier, oui, parce que le premier est en dollars américains et le deuxième en dollars canadiens. Sauf que quand, dans les médias, je regardais ce matin, là, c'est pas toujours évident. On se demande s'il n'y a pas eu si on a inversé les chiffres ou pas. Hein. Mais après vérification, je pense qu'il est juste de dire que c'est 2,3 milliards de dollars américains ou 3,2 milliards de dollars canadiens.
Ce qui est un peu préoccupant, c'est que Lowe's, c'était quand même une compagnie qui était dans le même esprit que Rona. Là, c'est une compagnie d'investissement, puis les autres, ils vont vouloir avoir un rendement, peu importe. Ça, c'est plutôt inquiétant.
Oui. C'était le commentaire éditorial d'Yvan. Maintenant, je vais vous donner l'opinion de Louis Hébert, professeur HEC à Montréal.
Il a sûrement plus de crédibilité.
Là. Non, pas nécessairement. Toute cette saga de vente de Rona, dit-il, pour que l'entreprise se retrouve propriété d'une firme d'investissement de New York. Et il dit que si quelqu'un a gagné quelque chose dans cette histoire, c'est d'abord les actionnaires de Rona qui ont vendu à bon prix en 2016. Alors donc, Richard Dufour a écrit cet article dans La Presse Plus. Maintenant, pour l'autre manchette, la mise à jour économique de Mme Freeland. Bon, évidemment, ça a suscité toutes sortes de commentaires. Et là, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que la récession, ça va probablement être plus long qu'on l'avait escompté. On a peut-être fait preuve d'un peu d'optimisme. Il y a eu beaucoup de réactions. Ce qui est intéressant, cependant, qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour aider les travailleurs à faible revenu, les étudiants, les techno-vertes et aussi les compagnies, les petites entreprises qui utilisent les cartes de crédit. Bon, à ce sujet, on sait que les commerçants, ils doivent débourser beaucoup. Hein. Ça peut aller jusqu'à 4 % du montant total d'une facture quand nous, consommateurs, on paye avec une carte de crédit, ce qui est de plus en plus courant. Mm-hmm. Donc, évidemment, c'est pas mal, ça représente beaucoup. Alors, quand les petites et moyennes entreprises, hein, ils se sentent déjà étouffés, par ses frais. Alors, Mme Freeland a dit qu'elle va les avoir à l'œil, puis il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils fassent quelque chose, parce que sinon, elle va intervenir. Dans ces mesures aussi, pas d'intérêt pour les étudiants et les apprentis. Donc, les prêts actuellement remboursés, même les prêts remboursés, vont faire qu'ils ne feront plus l'objet d'intérêt, parce que les prêts étudiants, évidemment, portent à intérêt aussi. Dans l'immobilier, des mesures intéressantes. Entre autres, elle veut instaurer une mesure pour que le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation va être doublé. Donc, ça va permettre aux nouveaux acheteurs de récupérer jusqu'à 1 500 $. Ah bon, vous allez me dire que c'est pas beaucoup quand on regarde le prix des propriétés, mais il reste que, comme on dit, c'est mieux que rien.
Bien, la taxe de bienvenue, mettons.
Ben ça aide parce que cette taxe-là, elle est énorme. Hein? Elle porte sur le prix d'achat. Hein? Du côté du Devoir, j'ai retenu une manchette. C'est le courant ne passe pas bien chez ILO. Alors, ILO, c'est une filiale de Hydro-Québec. Hydro-Québec qui a décidé de reprendre, je dirais, le contrôle de son conseil, de conseil d'administration d'ILO, parce que ILO est trop cher et pas rentable. En fait, Hydro-Québec, avec cette filiale, voulait accroître l'efficacité énergétique. Hein. Cette filiale, ILO vendait, mettait à la disposition des équipements qui nous permettent. En fait, le but, c'était d'engranger, si je peux dire ça comme ça, des kilowattheures pour qu'en période, en grande période de froid, par exemple, ou de consommation, on puisse avoir recours à ça. Et évidemment, il n'y a rien qui... Bon, je veux dire, l'objectif n'a pas été atteint, ce qui fait que maintenant, sur le conseil d'administration, 4 des 10 vice-présidents de l'équipe de Mme Brochu assure la destinée de cette filiale indépendante. Et, Hydro-Québec dit qu'elle a sous-évalué l'ampleur de la pointe de demande l'hiver dernier, c'est-à-dire c'est le devoir qu'il l'a révélé la semaine dernière, et il était temps qu'elle agisse. Alors, c'est la manchette principale du devoir sous la plume de Ulysse Bergeron et Alexis Riopel.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non.
Ça va.
On se tourne vers la voyageuse de l'Estrie. Bonjour, Monique.
Oui. Oui, bonjour Yvan.
Vous êtes en voiture, je pense.
Je suis en voiture, mais stationnée. On a traversé l'Estrie pour arriver à Montréal en 1 heure, comme d'habitude. Alors, un temps record.
Bravo.
Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que tout le monde est chez soi.
Alors, et est-ce que vous nous parlez de la qualité de l'eau de Windsor?
Ben, écoutez, hier, Hélène vous a parlé de l'eau de Windsor. Elle vous a dit que c'était la meilleure eau au Québec.
Oui.
Alors, aujourd'hui, je ne vous en reparlerai pas, mais je vais parler alimentation. Je vous parle du concours Sélection Caseus, qui récompense les meilleurs fromages. Pourquoi? Ben, c'est l'Estrie qui est à l'honneur. Je commence par le Zachary Cloutier de la Fromagerie Nouvelle-France, qui a été couronné meilleur au Québec dans le cadre de ce concours. Alors, ce fromage de Racine-la-Ville, en Estrie, a reçu le prestigieux Caseus Or, donc symbole d'excellence en matière de fromage. Le Caseus Argent a été remis au Bleu d'Élisabeth de la fromagerie du Presbytère, que vous connaissez peut-être, entreprise située à Warwick. Et finalement, le Caseus Bronze a été décerné au fromage Chemin Attelé, produit par la fromagerie de Station, qui une entreprise située à Compton, toujours en Estrie. Alors, bravo aux fromageries estriennes.
Oui, là, Francine,
Monique,
a quelque chose à ajouter, je pense.
J'ai une petite question pour vous. Le Bleu d'Élisabeth, me semble qu'il est couronné souvent. Est-ce que je me trompe?
Ah, écoutez, non. Et même, je dirais que le premier qui a gagné le prix, le Zachary Cloutier aussi, ce sont des fromages habitués aux honneurs, en effet. Alors maintenant, je me tourne vers Lac-Mégantic. Vous allez dire encore, Monique? Ben oui, parce qu'il y a toujours des nouvelles. La semaine dernière, je vous disais que je vous signalais le départ d'un fonctionnaire clé.
Oui.
Alors après ça, quelques jours après que la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, ait envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau, lui demandant d'éviter que le projet de construction d'une voie de contournement ne soit encore indûment retardé, eh bien, bonne nouvelle, le ministre des Transports, Omar Al-Gabra, annonce qu'une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Canada et la ville de Mégantic pour l'acquisition de parcelles de terrain appartenant à la ville. Le gouvernement du Canada réitère sa collaboration avec le gouvernement du Québec, la ville de Mégantic et les municipalités de Frontenac et de Nantes pour mener à bien ce projet de société. Il faut rappeler qu'en début de semaine, on apprenait la hausse de la facture de cette ambitieuse construction de voies de contournement ferroviaire qui s'élève maintenant à quelque près de 1 milliard de dollars.
Est-ce que ça veut dire qu'on arrive près de la fin de cette histoire?
Ben, en tout cas, je pense qu'on arrive, les terrains, en tout cas, sont acquis, puisque ce matin, je lisais que Lac-Mégantic obtient 2 millions du fédéral pour ses terrains et la municipalité semble satisfaite. Alors, changement complètement de paysage, je vous parle de culture. Alors, il y a l'équipe de production de la future télésérie américaine The Venery of Samantha Bird qui pourrait faire un détour par Bromont au cours des prochains mois. On y cherche, semble-t-il, une cabane ou un chalet en bois pour le tournage de quelques scènes. Alors, pour votre information, cette série mettra en vedette l'actrice australienne Catherine Langford dans le rôle de Samantha, une artiste solitaire qui, lors d'une visite à sa famille en Nouvelle-Angleterre pour l'Action de grâce, renoue avec son amour d'enfance. Alors, ça semble être un parfait conte de fées. Eh bien, la jeune femme sera plongée dans une relation troublante sous le signe de la dépendance amoureuse. Et une relation qui ne sera pas sans répercussions sur les habitants du petit village. Oui. Cette série comprendra 8 épisodes, mais la date de sortie n'est pas encore annoncée. Mmh. Et maintenant, sur le plan du tourisme, si j'ai un peu de temps.
Oui, une dernière.
Une dernière. Alors, une spectaculaire opération s'est mise en branle mercredi matin au quai Macpherson à Magog pour placer en cale sèche le bateau de croisière Le Grand Cru. Rappelons que c'est un catamaran de 41 mètres, 135 pieds, on doit le sortir de terre, oui, pour son inspection de routine obligatoire. Alors, la direction de l'entreprise nous parle d'une première mondiale. Pourquoi? Eh bien, comme il n'y a pas d'infrastructure de halage au lac Frémagogue, c'est requis par Transport Canada de sortir le bateau de l'eau. On a donc innové et on a soulevé partiellement le navire avec bâtards d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ce sont des caissons d'aluminium flottant qui ont été créés spécifiquement pour ça. Ça crée des espaces vides sous les coques et c'est la solution la mieux adaptée afin de protéger la structure du bateau et bien sûr de préserver l'environnement. Les travaux devraient être complétés d'ici le gel du lac. Et rappelons, pour terminer, que la construction de ce catamaran sur les rives du Mamfremagog s'est faite en 2011. Il a accueilli plus de 300 000 passagers depuis lors et l'entreprise magagoise emploie plus de 60 personnes chaque année.
Hey,
voilà.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Monique. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où est-ce que vous allez présentement.
Oui, une bonne fin de semaine, elle sera magnifique.
Encore.
Et n'oubliez pas, on change d'heure, envers et contre tous.
Là, vous me scoopez pour tantôt. Mais alors, merci beaucoup.
Bye.
Bye. Alors, au retour, on parle avec Serge Hamelin des frais funéraires. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
On ne voit plus les étoiles, bientôt ce sera la lune. On a fermé à clé les portes une à une, sans trop réaliser à force de s'isoler, que traînent sur nos visages des rêves abîmés. On en a moins dans le ventre, des trous ici et là, laissés si on vous le demande par la course aux éclats, des heures à s'enrichir en échange des dimanches, ces heures à s'appauvrir comme de beaux abrutis. Alors pourquoi s'en faire? C'est fait au cimetière. Si on ne sait pas se faire plaisir, à quoi bon craindre de mourir? Et sans risquer de passer à côté, à force de s'endurcir, on ne plie plus que pour briser. Il y en a qui s'aiment dans les déserts, tous ceux qui s'aiment des petits pois verts, d'autres qui s'aiment à tour de bras, tous ceux qui s'aiment et n'en parlent pas. Il y en a qui s'aiment balourd la nuit, qui s'aiment d'amour sans s'enlacer, d'autres qui s'aiment pour toute la vie, et ceux qu'on a déjà semés. Quand viendra le jour où on verra que c'est fini, c'est pas sorcier, faudra y aller sans trop regretter de nos pas. Quand viendra ce jour où on verra qu'on ne passera pas, s'il faut briller pour les amis, pour les amis, on brillera. Ah, ah, ah.
Dernière note dans la version que je connaissais, c'était Edgar Bory qui chantait « Ses fêtes au cimetière ».
Oui.
Et on est avec Serge Hamelin. Oui. La dernière dépense qu'on fait sur cette terre, c'est nos frais funéraires.
Oui.
C'est une dépense pour laquelle on ne jouit pas vraiment. C'est vraiment ceux qui...
Il faut jouir avant. Faut jouer.
Est-ce qu'on vient de changer de sujet, là,
tout Non, non, mais pas du tout. Mais là, écoutez, il faut jouir maintenant. Et puis bon, parce qu'on va tous y passer. Ce que j'aime de cette chronique-là, c'est que ça s'adresse à tous les êtres humains.
Oui, sans exception, effectivement.
Et voilà.
Sauf que certains sont peut-être mieux, nantis pour faire face à ce dernier départ. Puis c'est ce que vous allez nous raconter.
Oui, mieux nantis. Ben écoutez, on dit qu'il y a une différence entre 5 790 $ entre le forfait le plus onéreux, et le forfait le moins cher pour des funérailles traditionnelles, ce qui comprend l'embaumement, l'exposition, l'enterrement de la dépouille. Alors, la revue Protégez-vous, par Stéphanie Perron, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, se sont occupés de ce détail technique. Alors, le tiers des gens qui meurent ont signé des arrangements funéraires préalables, notamment pour éviter à la famille une facture salée, des démarches de dernière minute. Donc, mourir, c'est pas gratuit. Et pour avoir une idée des prix à l'échelle de la province, les clients mystères ont magasiné 13 préarrangements pour un enterrement, inhumation ou une crémation, incinération, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Magog, ainsi qu'à Saguenay.
Est-ce que votre article vous dit si ça vaut la peine de faire des préarrangements ou d'attendre au moment du décès?
Ça dépend ce que vous voulez. Non, ça vaut la peine de faire des préarrangements, c'est sûr, parce que si vous pouvez payer maintenant...
Je vous laisse aller, oui.
Alors, le premier constat, le marché funéraire n'est pas homogène. Alors, l'enquête révèle que les prix vont de 8 750 $ à 14 540 $. Alors, mettons, de 9 000, mettons, à 15 000 pour l'enterrement, et de 5 240 à 8 550 $ pour la crémation. Donc, c'est moins cher pour la crémation. Le prix du cercueil en bois le moins cher peut varier entre 799 $ et 2 775 $.
799, quoi?
Pardon?
À 799?
C'est des planches de bois assez normales, je pense. Et puis après ça, ben là, t'as le chêne, t'as différents types de bois qui viennent avec des petits motifs, probablement, dessus. Alors que pour l'urne, c'est entre 100 et 335 $, donc c'est plus économique, l'urne, qu'un arbre.
Oui, puis je pense que la tendance a l'air à s'en aller vers la crémation, de plus en plus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà. Alors, c'est ça. C'est pour vous dire. Alors, pourquoi on achèterait des pré-arrangements?
Oui.
Ben, c'est que quand arrive le moment, c'est toujours plus difficile, hein, de négocier. Oui. On est atteint, puis tout ça. Alors, c'est la paix de l'esprit. Et puis, c'est ça. Le principal avantage des pré-arrangements, c'est que l'argent prévu pour les obsèques est placé en sécurité dans un compte en fidéocommis. Alors, ils n'ont pas le droit de toucher à l'argent. C'est une loi, ça. Alors, si vous achetez ça maintenant, que vous mourrez dans 20 ans, eh bien, l'argent sera toujours là. Il n'y aura aucun problème. C'est une loi qui interdit d'inclure dans les contrats une clause d'indexation au coût de la vie.
Okay, mais quand on achète en pré-arrangement, ouais. Je prends votre exemple, là, dans 20 ans, si ouais. je décède, ouais. est-ce que j'ai ce pourquoi j'ai négocié?
Tout à fait.
Okay.
Oui, par expérience.
Peu importe le prix.
Par expérience, je l'ai vécu et dans un salon funéraire de renom. Il n'y a aucun problème. Le monsieur il a pris le papier, le contrat. Et puis, allez chez vous, monsieur, on s'occupe de tout. Merci, bonsoir. J'étais très content.
Même
très
si très probablement content. Que les coûts ont beaucoup évolué.
Ah, c'était rendu à 8000 $ de plus. Alors, donc, elle a bien fait d'acheter.
J'ai une question pour vous, Serge. Oui, tantôt, vous avez dit que les prix variaient beaucoup là, oui, d'un oui. endroit à l'autre.
Oui, c'est ça.
Mais mettons que je vais chez une entreprise là, reconnue, oui. toutes ces succursales ont le même plan à m'offrir, j'imagine.
Ça, je ne saurais dire. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut magasiner.
Oui.
Si vous avez à Montréal, c'est facile. Mais dans une petite localité, il y en a un. Alors là, vous êtes pris avec. Mais non, à Montréal, vous pouvez vous amuser présentement à le faire et puis ils vont vous dire combien ça coûte. Moi, je vais vous donner une idée de qu'est-ce que ça comprend, tout ça. Alors, tu as le transport de la dépouille, la préparation du corps. Alors, une idée, par exemple, si on est à Montréal, ici, on est à 495 $ pour le transport de la dépouille et si on est à Chicoutimi, c'est 295. Voyez-vous? Alors, il y a des différences. Et il y a le transport, la préparation du corps. 945 $, 675 $ ailleurs. Mm-hmm. Alors, il y a moyen de... Alors, la facture va s'élever à, par exemple, à 5 694 $ pour le centre funéraire du Puy qui est à Sherbrooke. Et va s'élever à 9 999 $ ou à 10 000 $ à Montréal. Alors, c'est pour dire qu'il y a des variations de prix. Alors, si vous voulez magasiner, ne vous gênez pas. Maintenant, il n'y a pas juste il y a la crème. Alors, ça, c'est pour avec le cercueil, hein,
oui.
l'inhumation.
Oui.
Mais il y a la crémation. Alors, la crémation, elle, ben, c'est moins cher. Hein. On passe de au lieu de 10 000 $ à Montréal, ben, on passe à 5 000 $. C'est moins cher. Okay. Et qu'est-ce que ça comprend, tout ça?
Mm-hmm.
Ben, dans le cas de l'incinération, c'est le transport de la dépouille, la préparation du corps, le contenant de crémation, c'est inclus, le coût de la crémation, l'urne la moins chère, ben là, on dit 195 $, mais vous pouvez acheter votre urne si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite de ça, l'exposition de l'urne, c'est inclus entre 2 et 4 heures. Alors, il y a plein de choses comme ça qui sont incluses. Il suffit de se renseigner. Mais c'est pour vous dire que ça oscille autour de 5 000 $ et 10 000 $. Ça oscille entre ça.
Puis, il y a un service qui est vraiment très intéressant dans cette période-là de la vie pour ceux qui restent. Je pense que les maisons funéraires s'occupent de beaucoup de paperasse auprès des gouvernements.
Tout à fait. Quand je suis allé avec les arrangements funéraires, je n'ai rien eu à m'occuper. Ils s'occupaient de la paperasse. Et moi, j'ai eu comme information, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a des spécialistes, ils vont chercher le corps à l'hôpital, ils l'amènent, ils s'occupent des papiers, ils brûlent la personne, ils mettent la personne dans une urne, ils le donnent à la famille et ça coûte au complet 1 100 $.
OK.
Hein? Alors, il y a donc moyen pour 1 000 $ de mourir. Et comme on sait que le gouvernement donne à chaque personne qui meurt 2 500 $, alors, ce qui fait que...
S'ils ont contribué à la RRQ, me semble, de leur vivant.
Oui, je pense, mais je ne suis pas sûr, mais la plupart des gens ont ce 2 500 $. Ouais. Donc, il y a moyen de mourir sans s'endetter.
Mais ça soulève l'idée que d'avoir aussi une assurance vie qui va aider à, oui, à ces dépenses-là, ça peut être aussi...
Oui, mais comme je vous dis, les dépenses peuvent être très minimes, à moins qu'on veuille du fla-fla, là. Hein? Bon. Alors, voilà.
Puis c'est pour ça que c'est intéressant d'y penser avant, parce que dans l'émotion, on est peut-être tenté par le fla-fla.
Ah, oui. Puis la semaine prochaine, je vais continuer, on va parler de déléguer. Hein? La personne qui va... Le liquidateur.
Oui. Je comprends. Puis c'est une bonne tâche. Avant
l'exécuteur testamentaire.
Oui. On veut peut-être honorer quelqu'un lui demandant, mais c'est pas de la tarte. C'est beaucoup de démarches.
Alors, j'avais le ton ce matin pour parler de ça.
Vous avez le ton tout à fait à propos.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
C'est un réparateur ici pour tout ce qui n'a jamais été garanti. Le bonheur, les outils pour le construire. Y a-t-il un technicien disponible pour le trouver, pour le changer, le maudit fusible?
David Marin qui chantait la chanson Le Tunnel.
Le Tunnel.
Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, quand j'ai donné le sujet de votre chronique en début d'émission, on se demandait si vous étiez devenu un chroniqueur circulation. Mais quand on regarde finalement comment vous l'avez développé, on se dit que non. Et mon Dieu, que ça va être intéressant, puisqu'on va parler du contexte et aussi de tout le développement, je dirais, économique autour de la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Alors, on vous écoute attentivement.
Mais en fait, je vais être un peu comme un chroniqueur circulation, parce que je dois dire que les travaux routiers sur la rue près de chez moi font beaucoup, beaucoup de bruit ce matin, donc ça va mettre dans l'ambiance.
Ben en fait, c'est normal, ça, Marcel. S'il n'y en avait pas avant, c'est qu'il y avait un problème de votre côté.
Ah non, mais ils font un spécial ce matin, comme ils savent que je passe à la radio. Mais tout ça pour dire que avoir la réaction du public et des médias à la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, on se rend compte que c'est une infrastructure dont on ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se rappellent de l'ouverture de Louis-Hippolyte-Lafontaine en 1967. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On a eu une vie avant le pont-tunnel et c'est là que je veux nous ramener aujourd'hui. En fait, je vais faire une chronique en deux temps. Comme vous l'avez mentionné cette semaine, pourquoi on a décidé de se doter d'un pont-tunnel à cet endroit-là, le contexte plus large. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de M. Louis-Hippolyte Lafontaine lui-même, question de bien faire le tour du sujet.
Alors, deux volets. On va mieux comprendre.
Le premier pont à relier Montréal et sa rive sud, c'est le pont Victoria, ouvert en tant que pont ferroviaire en 1860, plus tard adapté pour accommoder l'automobile. On ajoute un deuxième pont ferroviaire dans les années 1880 et ça répond à la demande jusque dans les années 1920. Mais le trafic automobile augmente, la population augmente et on va ajouter deux nouveaux ponts coup sur coup. D'abord, Jacques Cartier, inauguré en 1930 entre Montréal et Longueuil. Et 4 ans plus tard, on ouvre le pont Honoré-Mercier à la circulation, plus à l'ouest, entre Ville-la-Salle et la communauté Mohawk de Ganawagé. À l'époque, l'idée c'était de désenclaver Montréal et de faciliter les communications terrestres avec le sud, donc en direction des États-Unis, plus que pour permettre aux gens de vivre en banlieue et de travailler en ville. Ça viendra après la Seconde Guerre mondiale. Non seulement à ce moment-là, la définition de ce qui constituait une banlieue de Montréal change. Avant, c'était La Salle, Verdun, Outremont, Saint-Laurent. Là, ça devient la Rive-Sud, mais aussi l'île Jésus. Laval voit le jour en 1961 et tranquillement vers la Rive-Nord. Mais le concept même de ce qui constitue une ville est en évolution pendant cette période de l'après-guerre. Normalement, une ville ou un noyau citadin, ça se constitue autour d'un cours d'eau, d'une voie de communication naturelle ou d'une industrie quelconque. Là, on arrive avec l'idée d'un noyau, ou même parfois d'une ville tout entière, qui n'est près de rien. L'objectif, c'est de pouvoir devenir propriétaire, avoir son petit coin de paradis et aller travailler ailleurs.
Avec sa piscine, il ne faut pas l'oublier.
Avec la piscine, voilà, le garage et tout. On s'éloigne du modèle de, comme les facilités de transport sont sommaires, il est préférable de travailler près de chez soi et la distance a de moins en moins d'importance. La population augmente partout, c'est la revanche des berceaux dans l'après-guerre, mais ce à quoi on assiste sur la rive sud, c'est assez impressionnant. L'actuelle ville de Longueuil, avec ses frontières d'aujourd'hui, là, qui incluent les municipalités avalées subséquemment, comme Saint-Hubert, Ville-Jacques-Cartier, Montréal-Sud, parce qu'on a eu un Montréal-Sud, tout comme on a eu un Montréal-Nord fusionné à Montréal en 2001, et comme on a encore Montréal-Est et Montréal-Ouest, qui sont des municipalités autonomes, Montréal-Sud fait aujourd'hui partie de Longueuil. Donc, le territoire de Longueuil, qui comptait 14 000 habitants en 1931, en compte 58 000 en 1951 et on dépassait les 100 000 dix ans plus tard. Les ponts existants sont très rapidement saturés et on va investir massivement dans la construction de nouveaux liens dans les années 50 et 60. Le pont Champlain original est ouvert en 1962. Au même moment, on double le pont Mercier. Si vous regardez Mercier, c'est en réalité deux ponts l'un à côté de l'autre. Il y en avait un seul au départ. Mais lorsqu'on doit modifier le pont original pour permettre la navigation fluviale au moment de la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, on décide d'ajouter un deuxième pont Mercier identique au premier. Donc, le vieux pont allait en direction sud et le nouveau vers le nord. En 1966, on inaugure le métro de Montréal avec sa ligne jaune qui joint le centre-ville à Longueuil. Et moins de 6 mois plus tard, les automobilistes peuvent emprunter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. On a donc ajouté 3 nouveaux liens Montréal-Rive-Sud, on compte beaucoup en nombre de liens de nos jours, et on a doublé la capacité d'un 4e lien, et ce, en l'espace de 5 ans seulement.
Dites-moi, Marcel, excusez de vous interrompre, mais là, on construit tout ça, mais on se préoccupe jamais, parce qu'il y a un coût important, on se préoccupe jamais de l'étalement urbain à ce moment-là?
Bien, justement, c'est ça, toute cette nouvelle offre de ponts, ça va permettre l'augmentation vertigineuse de la population de villes comme Brossard et Boucherville. Mais à ce moment-là, comme je vous dis, on repensait complètement la façon d'organiser les villes, d'organiser les sociétés, et c'est la société de l'automobile. Donc, il n'y avait pas vraiment de préoccupation de le coût environnemental, le déboisement, la perte de terres agricoles. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, et même encore là, on voit que c'est pas acquis nécessairement pour tout le monde, puis on pensait qu'on avait des réserves inépuisables de pétrole, de combustibles fossiles, tout ça. C'était pas, je pense, des préoccupations qui revenaient, à part peut-être dans la bouche de une ou deux personnes comme ça, à droite et à gauche, là, dont on se préoccupait pas nécessairement beaucoup. Ceci dit, notre pont-tunnel, on y arrive finalement, c'est le dernier maillon de cette ouverture de la région au développement résidentiel. On avait étudié quatre tracés, un qui devait passer entre Ville-Jacques-Cartier, donc à l'est de Longueuil, et le quartier montréalais de Maisonneuve. Ça aurait été entre les boulevards Pinneuf et Viau. Ça aurait nécessité des expropriations massives des deux côtés du fleuve. On a un tracé qui passait par la municipalité de Montréal-Est, un autre qui devait relier Varennes à Pointe-aux-Trembles, donc encore plus à l'est. On opte finalement pour le projet que l'on connaît, pont entre la rive sud et l'île Charon dans les îles de Boucherville et tunnel entre l'île Charon et le quartier Mercier dans l'est de Montréal. On a choisi cette formule hybride pont et tunnel tout simplement parce que c'est ce qui allait coûter le moins cher. Les travaux sont lancés à l'été 1963, coût estimé à ce moment-là 50 millions. Ça a finalement coûté 75 et non 50, mais on s'entend que c'est une bagatelle comparativement aux milliards et demi plus ou moins que le projet de réfection actuel va coûter. La flambée des coûts dans les grands projets d'infrastructure, c'est absolument ahurissant. Bref, au départ, on parlait du pont-tunnel de Boucherville, même si l'entrée ou la sortie, dépendant où on se trouve, était aux limites de Jacques-Cartier et de Boucherville. C'est en février 1964 qu'on annonce que le nouvel ouvrage porterait le nom de Louis-Hippolyte Lafontaine. Je reviendrai sur son cas vendredi prochain. Je passe rapidement sur les détails techniques de la construction. C'est quelque chose d'excessivement complexe, de très impressionnant qu'on ait réussi à faire ça dans les années 1960. Si ce n'est pour vous dire que lorsque vous circulez dans le tunnel, vous ne passez pas sous le fleuve, mais bien au fond du fleuve. Le tunnel est constitué de différentes sections qui ont été préfabriquées et qu'on a déposées dans une tranchée creusée dans le Saint-Laurent, recouvert de matériaux, évidemment. Un navire ne pourrait pas là, venir écorcher le toit du tunnel. Ça a été prévu en conséquence. Maintenant, on a choisi le tracé entre Boucherville et Mercier parce qu'on le jugeait plus pratique, mieux situé que les autres pour un ensemble de raisons. On jugeait notamment que le nombre de propriétés expropriées pour la réalisation du projet était convenable. Mais c'est toujours très théorique pour les gens qui prennent ces décisions-là. En général, ils ne s'exproprient pas eux-mêmes. Et on s'est trouvé à éventrer le vieux noyau villageois de Saint-François d'Assise de la Longue-Pointe, une des plus vieilles paroisses de l'île de Montréal, fondée en 1724. Le secteur avait été une ville avant d'être attaché à Montréal. Et lorsqu'on construit l'entrée du tunnel et la voie de raccordement vers l'autoroute métropolitaine, il y a des bâtiments qui dataient du régime français, qui ont été démolis, et 300 familles, dont certaines vivaient dans le secteur de la Longue-Pointe depuis plusieurs générations, ont été expropriées et déplacées. Il y a donc eu véritablement, Francine, un coût humain à la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
Alors, c'était très intéressant et on a déjà hâte à la semaine prochaine, Marcel, pour entendre la suite.
C'est un rendez-vous!
Alors, cette semaine, dans la paractualité, j'ai retenu le thème de la santé mentale. Pourquoi? Parce que, à mon retour de vacances, j'ai pris connaissance d'un certain nombre d'articles qui étaient dans les médias, entre autres sur les études en psychologie. On exige un doctorat pour devenir psychologue. Il y a une pénurie de psychologues. Et ce qu'on a lu, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en psychologie, mais peu vont pouvoir atteindre justement le doctorat parce qu'il y a des exigences qu'ils ne peuvent pas remplir, principalement au niveau de leur moyenne cumulative. Alors, on disait qu'on exigeait à peu près des notes presque parfaites partout, là, c'est-à-dire des A et A+. Et c'est inquiétant parce qu'on le sait, on en parle beaucoup. La pandémie a comme remis au goût du jour ce sujet, cette thématique. Et dans Urbania, d'ailleurs, on a parlé cette semaine de tous ces problèmes que les gens exposent eux-mêmes sur les médias sociaux. Alors, ils sont victimes de bipolarité, dépression, troubles, et en fait, ils en parlent et ils disent « je m'attribue cela ». Alors, ça m'a amené à peut-être mettre un petit peu de quelque chose de positif là-dedans, puisque 40 % des gens touchés sont généralement les plus vulnérables, c'est généralement des 18-25 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis 2021, il y a un plan d'action sur la santé mentale en enseignement supérieur, que dans les cégeps, collèges privés, collégiaux et aussi les universités, on travaille très fort là-dessus, on déploie toutes sortes de mesures et qu'à compter de septembre 2023, donc septembre prochain, tous ces établissements auront des plans d'action en bonne et due forme qui vont s'arrimer avec le plan d'action gouvernemental. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien à ce moment-ci, au contraire. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En deuxième, tout de suite après la pause, ce sera la chronique techno et surtout l'entrevue que vous ferez avec Jocelyne Richard.
Oui, mais avant qu'on s'en aille, j'ai quelques secondes. C'est quand même une retombée intéressante de la pandémie. Je connais de façon très personnelle des étudiants en doctorat qui étaient tout seuls dans leur coin parce qu'ils devaient être isolés. Étudier tout seul dans son coin, c'est très, très difficile pour la santé mentale. Alors, c'est vraiment des retombées qui vont peut-être être très utiles dans le futur.
Vous venez de faire un lien avec la chronique techno qui s'en vient.
Bravo! Alors, on se reparle dans une dizaine de secondes.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et Francine, vous nous parlez de l'après-pandémie d'un point de vue technologique.
Technologique, oui, parce que pendant la pandémie, et encore aujourd'hui, dans le milieu de travail, mais en éducation, beaucoup, on était toujours sur l'ordinateur. On travaillait toujours en virtuel et non en présentiel. D'ailleurs, on a découvert ce nouveau mot-là, présentiel. Je vous en parlais parce que vous parliez de santé mentale et tout ça. Et pendant mes vacances, comme vous savez, j'aime beaucoup l'art contemporain. Alors, j'ai visité des musées d'art contemporain, dont un à Bordeaux. Et vous savez, en art contemporain, on aborde toutes sortes de thématiques sociales. Et une partie de l'exposition temporaire était organisée par un organisme qui s'appelle ARC en rêve. ARC, A-R-C, en E-N, et rêve comme rêve, au singulier. Si vous voulez voir ce qu'ils font, ce que fait cet organisme, vous pouvez aller sur YouTube, ils ont posté plusieurs vidéos. Et l'exposition portait, en fait, sur l'après-pandémie, sur la salle de classe, alors que les adolescents, ils appellent ça les adolescents parce que c'est principalement une exposition qui portait sur des classes de lycée, alors que les adolescents doivent revenir à ce qu'il y avait avant, point d'interrogation, et la réponse, ce n'est pas ce qu'il y avait avant, mais qu'il faut justement penser à autre chose. Et que la pandémie et ses modes d'éducation ont été des déclencheurs. Et que ce passage que ces jeunes doivent vivre quand même s'ils sont en période de pandémie à l'âge adulte, a besoin d'un soutien. Et que ce soutien-là passe, oui, parce que, bon, il y a les parents, les amis, etc., mais aussi l'environnement éducatif. Alors, ce qu'on visite, c'est une dizaine de classes où on a vraiment pensé à un environnement physique différent. Où en classe, on va pouvoir aussi utiliser des moyens technologiques, mais la configuration va faire qu'on va mettre en priorité certains équipements qui vont être liés à l'approche pédagogique qu'on va expérimenter ou en tout cas qu'on va développer, ou encore par des thématiques qu'on va principalement mettre en priorité. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir la configuration, la disposition. On en parle parfois ici, certaines écoles privées ont pris ce virage-là, mais c'est beau de voir ça, tout ça en même temps, parce que ça amène énormément d'idées et ça fait comme un vent de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on ne peut pas retourner dans notre modèle d'avant, pas juste à l'école, mais ailleurs aussi. Et c'est intéressant de voir qu'on a pris le soin de monter ce type d'exposition-là. Arc en rêve, c'est un groupe d'architectes, ce sont des architectes, et qui sont toujours préoccupés justement par le bien-être. Alors donc, c'est tout à fait dans leur mission de faire ça. Et comme je vous dis, je vous invite à aller voir ce qu'ils font là, sur YouTube.
Est-ce que vous avez un exemple concret des changements qu'ils préconisent?
Bon, par exemple, ça peut être une classe où il n'y a plus nécessairement de table. OK? On peut donc travailler dans différents espaces qui peuvent rappeler certains, peut-être des espaces de bureau un peu, avec des tables, je dis qu'il n'y en a plus, mais il y en a un peu quand même, là, qui sont adaptables. Mm-hmm. Ou encore, ça va se faire, avec peut-être des lieux où on va privilégier des petits fauteuils pour des apprentissages plus en collaboration.
Je comprends.
Des classes où on est carrément dans des espèces de laboratoires. Pourquoi? Parce qu'on privilégie ce qu'on appelle la pédagogie inversée, là, sans rentrer dans le jargon. C'est que dans la pédagogie inversée, c'est qu'en fait, l'étudiant, par lui-même, va s'approprier la théorie et ensuite, il arrive en classe. Et en classe, le professeur, finalement, est un chef de laboratoire qui va suivre et accompagner les élèves et les étudiants pour s'assurer qu'ils ont bien compris la matière qu'ils avaient à absorber finalement. Alors, c'est ça, c'est tout ça. Ou encore, ça peut être dans des écoles ou à vocation particulière, mais finalement, il y en a une où c'est pratiquement un jardin, je vous dirais ça comme ça, parce que c'est ils ont privilégié justement tout l'aspect développement environnemental, etc., etc. Donc, on replace les choses et on se sert de ces thématiques pour des apprentissages en mathématiques, français, par exemple, en environnement. Il y a combien d'œuvres littéraires ou autres qui abordent de ces questions-là? Alors, on rattache ça au thème de l'environnement. Au niveau pratique, justement, on va faire des choses qui vont mettre de l'avant des pratiques environnementales.
Mm-hmm.
Alors, je vous invite à le faire parce que, oui, ça se fait partout, mais là, c'est que c'est rassemblé à un lieu et on peut voir et comparer. Et ça vient de différents pays européens. Ce qui m'a frappé aussi au retour, c'est toujours sur la même thématique, mais cette fois du côté du travail. C'est que bientôt, il y aura des négociations de conventions collectives. Et le télétravail va occuper une place centrale dans la négociation. Maxime Bergeron en a fait un écran dans la presse plus cette semaine. Et ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas évalué ce qui s'est passé pendant la pandémie, alors que les fonctionnaires ont travaillé à distance.
Mm-hmm.
Alors lui, dans son article, il parle beaucoup de la productivité. Alors oui, c'est intéressant parce qu'on sait que, contrairement à ce qu'on pense, là, puis c'est pas pour vous flatter dans le bon sens du poil, là, parce que je sais que vous avez été fonctionnaire au fédéral, mais souvent, on dit « bof, les fonctionnaires, hein, les ronds de cuir et tout ça ». Mais non, on le sait que les services à la population sont de plus en plus importants puis qu'ils ont un rôle. En tout cas, si on le sait pas, on devrait le savoir, là, parce que des fois, il y en a qui pensent « je vais arriver au pouvoir puis je vais tout éliminer ça, ce monde-là ».
Oui, oui, oui.
Alors donc, on n'a pas, non seulement la productivité, lui, c'est ce qu'il dit beaucoup là-dedans, c'est ce qu'il parle, mais aussi, c'est autre chose, c'est l'organisation du travail. Parce que ce qu'on constate, c'est que maintenant, on a le droit, dans certains ministères, parce que là, on comprend que c'est pas nécessairement uniformisé, on a le droit de rentrer 2 jours sur 5 ou 3 jours sur 5, mais qu'on arrive, comme on le fait pas tous ensemble, et on arrive au bureau et on se réinstalle sur l'ordinateur parce que nos collègues avec qui on travaille n'ont pas le même horaire que nous de présentiel. Alors, ça m'a vraiment frappé et je me disais, bien là aussi, il y a de la réflexion à faire. Il faut qu'ils fassent vite parce que on est rendu, ça va commencer et il y a une certaine grogne qui s'est installée chez les employés et je dirais sans prendre parti, là, de toute façon, j'ai été un patron beaucoup dans ma vie, mm-hmm. mais je trouve qu'ils ont un peu raison parce que il faut regarder ça, là, on peut pas pelleter ça en avant, comme on dit, parce qu'on est là-dedans, donc il faut réagir. Alors c'est intéressant de voir toutes ces questions qui sont soulevées dans cette après-pandémie.
Tout à fait.
Cure for me, c'était Aurora.
Et je me tourne vers Jocelyne Richard, qui est la présidente de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Jocelyne, je ne vous demanderai pas ce que vous faites ce soir.
Ce soir, il y a un beau spectacle de Kim Richardson au studio TD, qui est situé au 305 Sainte-Catherine-Ouest. Kim Richardson, elle accepte de venir faire un spectacle pour nous, pour notre événement bénéfice à la SAM. Il y a encore des billets à vendre. Les gens peuvent aller sur Canadon et puis avec le site de la SAM, ils peuvent encore s'inscrire. Il y a encore s'inscrire pour y assister. Il y a encore un petit peu de place de disponible.
Un petit peu, comme
Il y a une cinquantaine de places de disponibles encore.
Okay.
Puis il y a toujours du monde qui ont acheté des billets puis qu'ils ne pourront pas venir. Alors, les absents peuvent être remplacés par les présents.
Bien sûr. Et lors de cette soirée, il y a le spectacle de Mme Richardson. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent? Il doit y avoir quelques discours, j'imagine.
Oui, il va avoir le mien. Ça, c'est certain. Il y a Humanware qui va offrir à nos membres deux appareils qui sont sur le marché. C'est quand même une compagnie, on va dire, qui se spécialise dans le travail de l'amélioration des activités. Pas des activités, mais on pourrait dire le matériel qu'on a besoin pour...
Pour les personnes aveugles. Hein?
Oui, c'est ça.
Oui, ben j'ai déjà vu, entre autres, une espèce de liseuse ou je sais pas, dans lesquelles on pouvait utiliser des livres qu'on avait enregistrés ici à Vues et Voix.
Oui. Ben il existe le Victor Street, mais là, ils ont fait une nouvelle version qui va permettre à des gens d'utiliser un GPS lorsqu'ils sont sur la rue pour repérer les maisons ou de repérer les obstacles.
Eh, wow! On n'arrête vraiment pas le progrès. Donc,
Non, il faut continuer le progrès parce que la société, elle évolue aussi. Fait qu'il faut suivre, sinon on reste en arrière.
Tout à fait. Je prends l'occasion pour vous remercier de passer quelques minutes avec moi dans une journée où vous devez avoir plein de choses à régler, des petits feux à éteindre, des choses de ce genre.
Oui, bien demain, on fait encore du tandem, nous autres, là. Il fait beau.
Oh mon Dieu, le tandem continue même au mois de novembre.
Bien sûr. Alors, il y a déjà demain 5 tandems qui vont partir du Centre-Claude-Robillard. Je ne sais pas quelle direction ils vont vouloir prendre. On va décider ça demain matin, mais il fait beau. Alors, si le vélo est bon pour les citoyens, il doit être bien bon pour nous autres aussi.
Sûrement.
Alors, j'ai encore des bénévoles qui sont disponibles pour faire du vélo tandem. On n'en a jamais assez parce que des fois, il y en a qui prennent des vacances, surtout après la COVID.
Oui.
Les destinations de tout genre à travers l'Amérique, à travers nos Amériques, sont bien, bien convoitées par nos bénévoles. Alors, c'est certain que des bénévoles, on en a toujours de besoin tout au long de l'année parce que là, on va commencer les randonnées pédestres. Et puis, cet hiver, ben je sais pas quelle sorte d'hiver nous aurons, mais si on a un hiver clément, on pourra faire encore du ski de fond, du ski alpin puis de la raquette.
Oui, puis je voyais sur votre fiche hebdomadaire que vous cherchiez des bénévoles, entre autres, pour le soccer sonore.
Oui. Ah, le soccer sonore, on est en train de constituer une très belle équipe, mais on a besoin de bénévoles parce que ça prend des bénévoles pour superviser quand même les personnes non-voyantes qui s'adonnent à cette pratique de sport-là qui est quand même assez exigeant. Et j'ai besoin de bénévoles pour la surveillance, pour éviter tous les accidents. L'activité a lieu les mardis soirs de 7h à 19h à 21h.
Oui, c'est ça.
Oui, l'adresse, là, je ne l'ai pas devant moi.
Ah, mon Dieu, c'est sur Jeanne-Mance, il me semble, puis c'est la station de métro Place des Arts. Puis
oui.
Puis là, on va vous trouver l'adresse dans quelques instants, là, on fouille.
Oui, c'est ça. Mais de toute façon, s'il y a des personnes qui seraient intéressées de connaître cette activité-là, il faut qu'ils s'inscrivent au départ à la SAM comme bénévoles.
Mm-hmm.
Et puis après ça, ils peuvent être orientés à celle qui s'occupe de l'activité, qui est Marie-Sophie Lauzon-Autier.
Oui, c'est au 3555 rue Jeanne-Mance,
à
l'association récréative Milton Park.
Oui, c'est ça.
Alors, je conclue ici parce que je sais que vous avez une journée qui va se finir assez tard. Mais un gros merci d'avoir gardé un peu de temps pour nous et au plaisir de se reparler dans un mois.
Parfait, merci beaucoup et bonne fin de semaine.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Can't find the words to say. It's got me tongue-tied and twisted. Lord, how did I wind up this way?
You know that I can show you everything you've never found. thinking about the future. Oh, what does this crazy world mean? It's got me worried about tomorrow and everything in between.
Don't you forget the moment. Take a look right now at where you are. You can chase that dream forever and never realize it's knocking at your door. 'Cause you just can't see it when you can't seem to win it. But if you give me a minute, I'll show you.
Pas ces voix à chanter ce soir, c'était Kim Richardson et Jason Lang qui chantaient No Mountain Too High.
Ben, j'espère qu'elle la chanterait celle-là parce que c'est vraiment entraînant. Francine!
Oui!
Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine?
Mais là, je sais plus, vous venez de dire quelque chose, ça m'a tout déstabilisé.
J'ai dit quelque chose qui vous a déstabilisé.
Ben, notre Félix, il va falloir le suivre en fin de semaine.
Oh, mais là, ça, c'est dans les choses que je vais suivre.
OK, c'est correct. Donc, j'en parlerai pas, mais il y a évidemment un match, là, ça dure un certain temps, on peut faire autre chose.
Oui, oui.
Alors, donc, Raymonde April, je vous ai dit l'autre fois qu'elle commençait une exposition qui se terminera le 18 décembre au 1700 La Poste sur Notre-Dame-Ouest, 1700 Notre-Dame-Ouest. Alors, je suis allée la voir et je vous la recommande vraiment, cette exposition. C'est une de nos grandes photographes, Raymonde April, et dans cette exposition qui est vraiment importante, elle se met en scène, donc elle parle de son enfance, son cheminement, des paysages du Québec dans lesquels elle a vécu, et aussi, elle porte un regard sur le regard qu'on porte sur l'autre et sur soi-même. Et on la voit beaucoup dans ses photos. Ils sont magnifiques, beaucoup, beaucoup de noir et blanc. Et je peux vous dire que même si on la voit beaucoup, là, pensez pas qu'on est dans le selfie, là. On est très, très loin du selfie. Et c'est là qu'on voit qu'on peut faire de magnifiques photos de soi-même, mais que ça passe pas par le selfie. C'était mon commentaire éditorial. Du côté du cinéma, évidemment, il y a Cinémania. C'est un hommage au cinéma francophone qui se poursuit jusqu'au 13 novembre. Alors, vous pouvez aller sur le site de Cinémania. Oui, pour la programmation 2022, vous allez voir, il y a toutes sortes de choses présentées à l'Impérial, au cinéma du musée, à la Cinémathèque et au Centre Phi. Pour ma part, je vais certainement me rendre au cinéma pour voir Tu te souviendras de moi. Ce film dont j'ai vu la bande-annonce à multiples reprises,
oui,
parce que
y a toute
je vais
une histoire,
beaucoup
hein?
au cinéma.
Oui, oui.
Et bon, à chaque fois que les cinémas réouvraient, moi, j'y allais. Et on représentait effectivement la bande-annonce du film. Mais c'est aussi le propos, parce que moi, ça me touche personnellement, cette question de l'Alzheimer. par des gens que je connais.
Mm-hmm.
Et aussi parce que ça porte non seulement sur la mémoire de l'individu, mais aussi sur notre mémoire collective.
Oui, oui.
Et
oui.
Je trouve, en regardant la bande-annonce, que l'interprétation de Rémi Girard et de Karel Tremblay, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit cette semaine. On a beaucoup parlé de l'interprétation de cette jeune comédienne
oui.
qui est magistrale. Et j'étais bien contente d'entendre Rémi Girard l'autre jour le mentionner. Du côté cinéma aussi, si vous avez le goût d'un petit peu de cynisme, de sourire, mais en même temps de quelque chose d'un peu dérangeant et critique sur le pouvoir, l'argent, la vie en société et notre superficialité, allez voir La Palme d'or, qui est encore à l'affiche à Montréal, du Suédois Östlund. Triangle of Sadness, en français, c'est Sans filtre. Et
oui,
enfin...
ça avait été très controversé,
oui,
cette Palme d'or.
Oui, mais moi,
là.
J'ai beaucoup aimé le film. Oui? Je dois vous dire que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il faut être dans cet esprit, par exemple.
D'accord.
Oui. Et enfin, évidemment, c'est pas en fin de semaine, mais on déborde un peu. Je m'intéresse beaucoup aux élections de mi-mandat aux
mm-hmm.
États-Unis, 8 mm-hmm. novembre, parce que je pense qu'il ne charrie pas M. Obama quand il dit que c'est un vote pour la démocratie.
Oui, bien, j'ai lu plusieurs... Oui, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu plusieurs articles sur le sujet. Il y a plusieurs personnes qui sont... dont le mandat est... Et de façon élective, là, mardi. Et entre autres, il y a plusieurs personnes dans l'appareil électif. Ce qui fait que quand ça va être le temps des élections présidentielles dans 2 ans, il y a toute la controverse qui avait été soulevée par M. Trump sur est-ce que l'élection était valide ou faussée. Ben, les membres de l'appareil électoral vont peut-être être des gens de cette même philosophie-là.
Ouais.
Et là, on peut se poser des questions vraiment sur la façon dont les résultats vont être traités.
Tantôt, je vous ai parlé brièvement, je vais conclure là-dessus, là, de Truth Social, le média social de M. Trump.
Oui.
Et présentement, je vais vous dire qu'on se fait aller pas mal, là.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup.
De mon côté, il y a un calendrier qui est dans notre studio de toute l'année. Ça s'appelle Bébé Symphonique et c'est un album qui regroupe plusieurs pièces symphoniques, beaucoup jouées par l'Orchestre symphonique de Montréal. Eh bien, savez-vous, Francine, que cet album-là a gagné l'album DVD de l'année jeunesse dans un des galas de la disque? Et le gala qui va être présenté sur Radio-Canada va avoir lieu dimanche. Donc, c'est quelque chose à suivre en fin de semaine.
Le troisième et dernier.
Oui, le troisième et dernier, effectivement. Il y a eu des galas sur l'industrie pendant la semaine. On change l'heure. On l'a mentionné à un moment donné pendant l'émission. Alors ça, c'est le moment de l'année où on a une heure de plus pour fêter, pour boire, pour dormir, on a une heure de plus. Ça va changer un petit peu aussi la luminosité le matin. Peut-être que je vais me lever à une heure plus raisonnable à partir de vendredi prochain.
Mais vous allez vous coucher tôt, par exemple?
Peut-être.
Oui.
On verra bien. Vous avez mentionné ça. Eh bien, oui, Félix Auger-Aliassime a gagné son match de quart de finale 6-1-6-4. Contre Francis Tiafoe. Il va jouer contre le gagnant du match Alcaraz-Roué qui va avoir lieu dans quelques instants à Paris. Donc, c'est à suivre. Je vais aller faire du vélo, c'est sûr. Alors, Et puis, les Alouettes jouent en quart de finale, oui, contre les Tiger Cats dimanche à 13h. C'est le tour des choses à surveiller en fin de semaine. Francine, c'est à vous pour conclure.
Oui, et si nos auditeurs et auditrices que je remercie d'être à l'écoute font tout ce qu'on leur a dit, vont être essoufflés un peu.
J'espère.
Alors, faites un choix, s'il vous plaît. Alors, merci Yvan, merci Mathieu, merci à vous tous d'être à l'écoute et comme à l'habitude.
On vient de finir notre 25e.
Oh là là!
C'est des noces d'argent, je pense. Bye!